Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Comme chaque vendredi, c'est le Club des Idées. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est la première fois en 2017 qu'un candidat à l'élection présidentielle propose de sortir de l'Union européenne. François Asselineau en a fait sa marque de fabrique. Il est, dit-il, le seul candidat du Frexit, contraction à la mode entre le nom d'un pays membre et le terme « sortie » en anglais. Alors contrairement au Royaume-Uni, le candidat de l'UPR, jusqu'alors inconnu, ne propose pas de faire décider le peuple. S'il est élu, adieu l'Europe, un point c'est tout. Alors il y a peu de risques de faire mentir les sondages en prédisant que François Asselineau ne sera pas le prochain locataire de l'Élysée. Toutefois, sa qualification comme candidat témoigne d'une certaine sensibilité de l'opinion à la question. Il faut dire que le rapport des Français à l'Europe ne va pas en s'améliorant avec les années. La crise de l'euro est passée par là, mais les racines pourraient être plus profondes. Il y a 12 ans, le 29 mai 2005, les Français votaient non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Ce rejet fit apparaître une fracture, jusqu'alors ignorée. L'Europe n'était pas pour tous signe de progrès et de protection. 2 ans, un nouveau texte et quelques référendums plus tard, l'Europe se dotait tout de même d'un traité pour consolider ses acquis. Une trahison pour les nonistes, le début du divorce pour certains. Alors le non de 2005 sera-t-il entendu en 2017 ? C'est le débat que nous aurons ce soir avec 3 membres du club, à commencer par vous, Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Je rappelle que vous êtes chroniqueur à France Culture, le tour des idées du lundi...
Le
tour du monde des idées, pardon. Du lundi au vendredi à 11h53. À vos côtés ce soir, Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de La Suite dans les idées le samedi à 13h30 sur France Culture et professeur associé à l'EHESS. Et notre troisième membre ce soir, c'est Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Vous êtes directeur du cabinet de conseil en stratégie Footprint Consultant.
Je souhaite que l'Europe change, que l'Europe bouge, que l'Europe s'améliore. Je vous demande de dire oui parce que la France et parce que l'Europe méritent ce oui.
Le référendum, ça consiste à donner la parole au peuple. Mais dès lors qu'on la lui donne, il la prend. Et il sait très bien qu'il a le droit de répondre oui ou de répondre non. C'est la raison pour laquelle le peuple se prépare à répondre non. Je répondrai non avec lui.
Il est 21h, 59 minutes et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut-être.
Mini traité peut-être, mais grand spectacle ce matin dans le prestigieux monastère de Lisbonne. L'Europe qui signe sa nouvelle charte, le Portugal voulait que musique et décor soient à la hauteur.
Je veux vous dire une chose, comment croire le Premier ministre qui a bafoué le vote des Français lors du référendum de 2005, qui a fait voter le traité de Lisbonne par le Parlement, qui a été le viol du peuple. Et c'est là où j'ai quitté l'UMP, vous le savez très bien, parce que c'était une forfaiture. En vérité, les gouvernements, que ce soit celui de M. Fillon ou celui de M. Hollande, sont passés en force, alors que les Français avaient compris qu'il fallait réorienter l'Europe. Et c'est l'enjeu de cette campagne de 2017.
Alors c'était la séquence sonore, comme chaque semaine, de signé Jean-Christophe Francis, notre réalisateur. Sylvain Bourmeau, ce nom, il y a 12 ans, qu'on cherche à oublier, mais qui revient toujours, qui revient par la fenêtre, comme mardi soir, lors du débat télévisé entre les 11 candidats, par la bouche de Nicolas Dupont-Aignan, comme on vient de l'entendre.
C'est sûr que c'est un vote qui a été important, mais encore faudrait-il qu'on se rappelle ce sur quoi on a voté. Il ne faudrait pas donner l'impression que le vote de 2005 était un vote pour ou contre la sortie de l'Europe. C'est pas la même chose que le Brexit. Or, comme on vient d'assister à ce référendum britannique, on a tendance un peu, lorsqu'on parle maintenant du TCE de 2005, à considérer qu'en gros, il s'agissait de prendre position pour la sortie de l'Europe. Non, c'était des choses beaucoup plus complexes que ça. Je dois dire, pour annoncer tout de suite les choses, que personnellement j'ai voté oui à ce référendum, que j'ai beaucoup réfléchi, que ce vote n'était pas évident, parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas dans le traité, mais qu'in fine, je pensais qu'il valait mieux voter oui. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce référendum a eu un effet de bombe à fragmentation, en quelque sorte, mais un effet différentiel. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer qu'il a eu un effet très important sur l'ensemble du paysage politique. C'est pas tout à fait vrai. Il a eu un effet beaucoup plus important sur le Parti Socialiste que sur les autres formations politiques. Je voudrais rappeler que la quasi-totalité des dirigeants de l'UMP se sont prononcés pour le oui, ont voté pour le oui. Il n'y a guère que Nicolas Dupont-Aignan. Alors on voit avec la présence de Nicolas Dupont-Aignan dans le scrutin cette année les traces, d'une certaine façon, de ce vote 2005 à droite. Elles ne sont pas majeures. Il est clair que le Front National avait appelé à voter non. Ils sont restés sur cette même position depuis toujours, etc. En revanche, s'agissant de la gauche, bon, c'est clair aussi du côté de Mélenchon, du côté de la composante communiste, etc. Mais s'agissant du Parti Socialiste, c'est là qu'on a une bombe à fragmentation et à retardement, en quelque sorte. Est-ce que vous vous souvenez, les uns les autres autour de cette table, quelle a été la position sur ce traité constitutionnel européen de Manuel Valls ?
Il était contre.
Il a appelé à voter contre. Il était contre. Est-ce que vous vous rappelez, évidemment, on se rappelle davantage, la position de Laurent Fabius ?
Il était pour.
Il était contre.
On s'en souvient peut-être plus, c'était un des grands énormes.
Est-ce que ça signifie quelque chose en termes de soi-disant nouvelle gauche, vieille gauche, que sais-je, de ces clivages qu'on utilise n'importe comment. En revanche, Martine Aubry, soutien de Benoît Hamon aujourd'hui, elle était farouchement pour. Benoît Hamon, lui, avait voté non. Mais quand on repense à ce qu'était le nouveau Parti Socialiste, cette génération, au fond, du Parti Socialiste, c'est-à-dire Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon, qu'on a vu donc candidat à cette primaire, eh bien, seul Vincent Peillon était pour. Arnaud Montebourg a appelé à voter non, de même que Benoît Hamon. Les choses sont très compliquées et je pense que on ne peut pas, à partir de ce vote, en déduire des choses sur des positionnements politiques, je dirais, à l'intérieur de la gauche. Alors, ça ne veut pas dire que le fait que le vote n'ait pas été, entre guillemets, respecté par la suite, ce qui peut se discuter par le fait qu'il y a eu une élection présidentielle puis législative après, n'est pas pesé. Et je crois que ça a participé d'une forme de discrédit des engagements politiques, mais c'est une question beaucoup plus vaste, le TCE n'étant qu'un exemple, à mon sens, parmi beaucoup d'autres.
Alors discutons-en justement de cette légitimité. Hein. À l'interpellation de Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon a répondu que la légitimité démocratique de ce vote venait du fait que c'est Nicolas Sarkozy, élu président, qui l'a mise en place et que par le fait de son élection, il était suffisamment légitime pour faire passer ce traité. Brice Couturier, est-ce qu'on n'a pas là une concurrence de légitimité ? Est-ce que un non sur une question très précise ne vaut pas plus qu'un engagement parmi d'autres d'un président dans une élection qui a lieu 2 ans plus tard?
Écoutez, puisque Sylvain Bourmou a commencé en disant pour qui il avait voté à l'heure de ce référendum européen.
C'est pas une personne.
Mais je vais aussi parler de moi. Moi, à l'époque de ce traité, il se trouve que j'animais toutes les semaines sur les antennes de France Culture une émission consacrée à l'Europe qui s'appelait Cause commune. Et très honnêtement, j'ai fait campagne à travers mon émission, détournement si l'on veut, pour le traité constitutionnel européen, dans la mesure où j'en ai suivi l'élaboration sur place à Bruxelles, jour après jour, dans la salle où avaient lieu les travaux, et j'avais vraiment l'impression de vivre un événement historique, la création d'une constitution, d'une constituante européenne, la création d'une entité politique supranationale européenne, et tout ça était franchement, Mélanie, très enthousiasmant. On pouvait faire sortir des eurodéputés espagnols, italiens de la salle et les interroger au fur et à mesure qu'ils étaient en train de rédiger. C'était passionnant, c'était fascinant. Bon, le rêve européen, qui était le mien, très honnêtement, à cette époque-là, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'il a du plomb dans l'aile. On vient de fêter le 60e anniversaire de la création de notre Union européenne et elle a déçu. Elle a déçu pas seulement les électeurs français, elle a déçu l'ensemble des électeurs européens. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi. Aujourd'hui, on se trouve dans la plupart des pays européens devant une fracture de l'électorat en deux. Vous avez en gros une partie qu'on appelle les élites, mais si les élites comportaient 50% ou davantage de la population, ce serait pas des élites. Vous avez, disons, des gens qui vivent dans les grandes métropoles bien reliés au reste du monde par l'Internet et par les réseaux commerciaux, qui échangent beaucoup. Ces métropoles qui sont connectées entre elles vont très vite. Ceux qui y habitent sont heureux. Ils bénéficient d'opportunités de travail et de promotion individuelle très importantes. Et puis vous avez une deuxième Europe, celle qu'on a vue au cours du Brexit voter pour le Leave, celle des vieilles villes industrielles en déclin, celle d'une classe ouvrière blanche qui est très mécontente du sort qui lui est fait, qui est très inquiète devant l'immigration et le changement démographique des populations européennes et qui attribue les causes de son malaise à l'Union européenne, à l'Europe, à cette intégration. Donc on est là face à véritablement un éclatement des électorats, à une crise extrêmement profonde qui ne se traduit plus en termes de droite et de gauche, et c'est ça qui est aussi très intéressant, mais en termes d'adhésion à ce que l'Europe et la mondialisation ont pu représenter, et en versus l'attachement au fait de vouloir vivre et travailler au pays, entre soi. Donc voilà, maintenant l'Europe est devant ce problème. Pour son 60e anniversaire, alors il y a toutes sortes de textes, il y a notamment le livre blanc de Juncker qui vient d'être publié, qui trace des perspectives, mais à mon sens très insuffisantes, on en reparlera, parce qu'il s'agit toujours de nous dire comment on va diriger l'Europe et non pas pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble ?
Alors Brice Couturier, vous n'avez pas répondu à ma question. Je la pose donc à Philippe Manière sur la question de la légitimité de traité de Lisbonne qui a été adopté par le Parlement suite au non au traité constitutionnel. Est-ce que c'était légitime ou pas démocratiquement ?
Moi, je trouve sincèrement que oui, quand un candidat à la présidence de la République dit « Je vous signale que si vous m'élisez, je reviendrai sur l'engagement qui a été pris de ne pas ratifier le traité et donc je le ferai ratifier par le Parlement », s'il est élu, c'est que le peuple a considéré que ça n'était pas une raison suffisante pour qu'il ne soit pas élu et que donc, évidemment, puisqu'on le laisse devenir président, eh bien, il fera ce qu'il a dit sur ce sujet. Donc moi, je pense que la réponse de François Fillon est franchement, à la fois d'un point de vue quasi juridique, d'un point de vue moral et d'un point de vue logique, assez satisfaisante. Alors après, quand on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que la question de notre émission, c'est est-ce qu'on est dans une forme de réplique du séisme de l'époque ? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça avait été une forme de séisme. Hein. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles les uns et les autres avaient voté pour ou contre, parce que Sylvain l'a très bien dit, les lignes étaient assez impénétrables. Elles n'ont pas aujourd'hui, pour le coup, de réplique parfaitement compréhensible ni lisible. N'oublions pas tout de même que dans ce type de circonstances-là, la tactique joue beaucoup. Typiquement, je crois que personne ne peut imaginer un instant que Laurent Fabius était sincèrement contre le traité européen.
On ne pouvait qu'éclater de rire. On ne pouvait qu'éclater de rire en l'entendant.
Je pense en revanche qu'il faisait quelque chose qui était apparemment très malin, qui lui a pas porté chance d'ailleurs, mais qui était apparemment très malin, c'est qu'il se disait la probabilité que ce soit accepté par les Français est faible, et a fortiori la probabilité que ce soit ratifié par, je ne sais plus combien il était à l'époque, 25 ou 26 ou 27, est très faible, et donc je serai du côté de ceux qui ont gagné si je dis non. Et beaucoup de gens faisaient ce type de calcul. Donc oublions les questions, j'allais dire, de personnes, et effectivement le fait qu'il n'y ait pas de filiation directe entre les postures de l'époque et celles d'aujourd'hui. En revanche, on ne peut être que frappé si on regarde ces deux sujets du référendum de l'époque et des tentations populistes d'aujourd'hui et de la macération dans laquelle est le pays, on ne peut qu'être frappé par la similitude des cartes électorales. C'est tout à fait spectaculaire. Alors à la fois, bien sûr, du point de vue des CSP, du point de vue sociologique, j'allais dire, mais du point de vue géographique, c'est spectaculaire parce que quand on voit la carte, ça saute à la figure. En gros, les gens qui aujourd'hui sont plus ou moins macronistes et qui sont, vous voyez, sur les cartes, on voit bien... la Bretagne, l'Île-de-France, les grandes villes, etc., bah, ce sont les gens qui étaient pro-européens à l'époque. Et tous ceux qui, à l'époque, étaient anti-européens, eh bien, ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont plus ou moins tentés par le vote Front National, pour ne parler que des deux candidats qui font la course en tête dans les sondages d'aujourd'hui. C'est pour ça que je cite Macron et Marine Le Pen et pas les autres. Donc vous avez très clairement cette bipolarisation pour les raisons qui ont été parfaitement bien expliquées par Brice et sur lesquelles je ne veux pas revenir. Vous avez des gens qui vivent assez bien la mondialisation et donc l'Europe, pour eux, n'a pas besoin d'être une Europe forteresse protectrice plus qu'elle ne l'est, puis vous avez des gens qui vivent mal la mondialisation et pour lesquels dans le fond, l'Europe, elle doit être plus protectrice ou ne pas être. On la soupçonne d'être l'agent du malheur. En tout cas, on ne peut qu'acter qu'elle ne protège pas de ce malheur. Donc voilà. Alors maintenant, quand on a dit ça, encore une fois, je recommence. On n'a rien dit parce que vous avez deux cartes similaires. Est-ce que ça veut dire, comme j'avais l'air de l'esquisser à l'instant, que c'est parce que la même cause produisait les mêmes effets, que donc vous avez une forme de corrélation parce qu'il y a une cause commune ? Est-ce que c'est au contraire ce que vous semblez suggérer, Mélanie, avec le titre même de l'émission, le fait qu'on ait blousé, en quelque sorte, les gens qui avaient voté Comte et Comte qui les a mis en colère aujourd'hui. Donc là, ce serait en quelque sorte une forme de corrélation directe. Vous pouvez aussi, donc, vous pouvez imaginer une cause commune à deux phénomènes. Vous pouvez imaginer une corrélation dans un sens. Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Donc, je crois que c'est pas très facile de faire le départ. Je crois que c'est un peu artificiel de faire le lien. Si ce n'est que, quand même, on ne peut pas en disconvenir. Et ce qui a été publié cette semaine sur le caractère plus ou moins optimiste ou pessimiste des électeurs de tel ou tel, je crois, résume vraiment bien ce qu'on est en train de se dire. Les gens qui sont à l'aise, qui sont optimistes, qui sont confortables avec l'évolution du monde, sont des gens qui votent plutôt oui à tout ce qui est ouverture ou marche, j'allais dire, pour filer la métaphore Macron, et tous ceux qui sont dans la situation symétrique votent évidemment, ou en tout cas ont une tentation symétrique. Alors, donc ça, c'est pas seulement en France, au passage, on va sûrement y revenir, mais c'est vrai qu'on voit ça en France et que c'est spectaculaire parce que la France, traditionnellement, malgré ses lignes de fracture, avait tout de même une espèce d'enthousiasme européen chevillé au corps.
Alors effectivement, le lien entre le vote de 2005 et les enjeux de la présidentielle, effectivement un lien qu'on met en question ce soir et dont on débat, Sylvain Bourmeau, sur cette question de une France fracturée, une cartographie avec donc ceux qui bénéficient de la mondialisation, ceux pour qui c'est plutôt une menace, et cette menace se traduit notamment à travers l'Europe. Justement, est-ce que ça, c'est pas un peu nouveau, c'est-à-dire que la mondialisation comme menace, certes, mais l'Europe comme menace, est-ce que ça, c'est pas un peu nouveau ?
Non, la preuve étant cette victoire du non en 2005. Donc c'est relativement ancien malgré tout. C'est-à-dire qu'on pourrait même en trouver des premières traces lors du référendum.
Excusez-moi, je précise, quand je disais ça. Nouveau, justement, c'est-à-dire en se plaçant du point de vue de 2005, c'est-à-dire est-ce que ce jour-là, quelque chose s'est dévoilé d'une fracture qui jusque-là était quand même sous-jacente, qu'on n'avait pas bien anticipé.
On l'a probablement, d'où le choc dont parlait Philippe Manière, parce que c'est vrai que ça a été un choc, qui a eu un contraste aussi entre, rappelez-vous, les prises de position des éditorialistes, des médias qui ont été pointés du doigt parce qu'ils étaient très homogènes dans leur soutien.
Brice Couturier nous en a fait un aveu il y a quelques minutes.
Et par ailleurs, donc il y a eu cette dimension effectivement de choc, mais je pense qu'elle prenait ses racines bien plus loin. Je partage beaucoup de l'analyse faite auparavant sur ces nouvelles fractures, mais moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire que ces clivages, qui sont des clivages sociaux, on peut prendre différents indicateurs, qui sont des clivages aussi qui traduisent des différences dans le rapport au monde, hein, tout simplement. On a tendance à dire aujourd'hui un clivage entre des gens qui sont pour une société ouverte et d'autres qui sont pour une forme de repli. Sont à la fois des clivages sociaux, des clivages qu'on peut dire idéologiques à certains égards. Est-ce que c'est une bonne idée d'en faire un clivage politique ? Moi, c'est la question qui me taraude, parce que lorsqu'on en fait un clivage politique, et une manière de répondre à la question que vous posez en titre de l'émission, c'est-à-dire le nom de 2005 sera-t-il entendu en 2017, on pourrait continuer en disant ça voudrait dire quoi au deuxième tour ? Ça voudrait dire que pour que le nom de 2005 soit entendu au deuxième tour de 2017, il faudrait que Marine Le Pen gagne cette élection de 2017 ? Heureusement, une élection présidentielle ne se joue pas que sur une question. Donc il y a un vrai danger, je pense, à faire de ce clivage-là, qui n'est qu'un des clivages parmi beaucoup d'autres, sur beaucoup d'autres sujets. Je vous invite à regarder le comparateur de programmes que Le Monde a mis en ligne, qui permet de voir que les positions des uns des autres se déplacent sur un certain nombre de choses. Donc, cela dit, il y a quelque chose comme une espèce de couple qui formé désormais par Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que les gens anticipent parce qu'ils les voient déjà au deuxième tour, et qui aura tendance à remplacer le clivage droite-gauche, dont je rappelle quand même qu'il est, pour 93% des gens qu'on interroge, toutes les enquêtes le montrent, le clivage structurant. On a beau dire tout ce qu'on veut sur le clivage droite-gauche, quand c'est la compétence politique numéro un des électeurs. Je veux dire, tous les sociologues de la politique le montrent, c'est la compétence politique numéro un. Les gens savent très bien se placer sur une échelle en 7 positions.
Quand les deux candidats qui font la course en tête, avec 50% des intentions de vote, ne sont ni de droite ni de gauche, la messe est dite.
C'est là toute la question et tout le danger, à mon sens, parce qu'on voit bien ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Vous avez un clivage droite-gauche qui est institutionnalisé dans l'architecture même du Parlement, hein, un face-à-face dans la chambre entre la droite et la gauche. Eh bien, quand on remplace ce face-à-face par un référendum auquel il faut répondre oui ou non pour sortir de l'Europe et qu'on coupe littéralement en deux, cette fois, pas juste la gauche, mais aussi la droite, parce que les deux partis se sont trouvés coupés en deux, eh bien, on obtient ce vote, cette décision de sortie. Alors, la grande chance des Britanniques, c'est qu'heureusement, ils ont un mode de scrutin à un tour qui va leur permettre de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de retrouver probablement le crevage droite-gauche. C'est-à-dire que UKIP, c'est terminé. Je veux dire, il aura servi à sortir de l'Europe, mais la force du mode de scrutin va faire que les deux partis traditionnels vont perdurer. En France, la situation est beaucoup plus instable et si on accepte de construire le paysage politique avec d'un côté le Front National et de l'autre le reste du monde, eh bien je vous laisse déduire ce qui risque de se passer, non pas en 2017, mais à la suite dans le cadre d'autres élections, peut-être dans 5 ans, peut-être plus tard. En tous les cas, je trouve que c'est un clivage extraordinairement dangereux.
Alors, Sylvain Bourmeau, dans la question, le vote de 2005 sera-t-il entendu en 2017 et, évidemment, je ne suggérerais pas, Marine Le Pen doit-elle arriver au pouvoir, tout que c'est pas comme ça qu'on avait conçu l'émission, mais plutôt de se demander quelle interprétation, et ça c'est quand même une question importante et un travail qui a commencé à être fait dès 2005, c'est-à-dire quelle interprétation on pouvait donner à ce nom. Cette interprétation, elle a été complexe, elle a été difficile. Ce qui ressort et ce qui est ressorti depuis 12 ans, c'est l'idée qu'il y avait à peu près deux noms. Le nom, pour résumer, un nom national, souverainiste, et un nom d'une crainte d'une Europe qui ne serait pas assez sociale. Brice Couturier, 12 ans plus tard, est-ce qu'on a tiré des leçons? Est-ce qu'on a apporté des réponses à l'interprétation qu'on a pu faire de ce nom au traité constitutionnel?
Et bien justement, là, je suis en désaccord profond avec Sylvain Bourmeau sur ce point. Moi, je pense effectivement que le clivage droite-gauche est en train d'être remplacé par autre chose et que le référendum de 2005, justement, anticipait ce qui est en train... la redistribution des cartes qui a lieu aujourd'hui. Le clivage droite-gauche, effectivement, il est en train de perdre sa pertinence puisque les deux candidats qui représentent les deux partis de gouvernement, à eux deux dans les sondages, atteignent quoi 40%. Qu'est-ce que c'est que des partis de gouvernement qui, à eux deux, qui alternent au pouvoir depuis maintenant le début de la Ve République, n'obtiennent même pas 50% à eux deux. Ça veut dire, et ce phénomène, on l'observe pratiquement dans tous les pays d'Europe. Cette alternance entre un centre-droit et un centre-gauche a perdu son sens, puisque l'Europe qui n'est finalement que le symbole d'autres problèmes qui sont derrière, nous montre que les nouveaux clivages s'organisent autour d'autres choses que le clivage droite-gauche.
Mais ça remet pas... Ce que vous dites juste, Brice, sur ce point, c'est pas parce que les scores de François Fillon additionné avec celui de Benoît Hamon font peu que le clivage droite-gauche se met en gauche, puisque à gauche il se trouve aussi d'autres candidats, à commencer par Mélenchon, et puis à droite il se trouve aussi d'autres candidats, à commencer par Marine Le Pen. Donc vous pouvez pas dire, le total gauche et le total droite continuent de faire quand même
En quoi Mélenchon est-il encore de gauche et en quoi Marine Le Pen est-elle encore de droite? Franchement, quand on les entend parler, on a surtout affaire à des populistes. À des populistes, effectivement, face à l'Union Européenne, on sait très bien ce que le populisme veut dire.
Effectivement, on n'est pas d'accord sur la définition de la gauche et de la droite. Pour moi, Mélenchon est de gauche. Il est nationaliste, certes, comme Marine Le Pen, qui est nationaliste. Mais c'est un nationalisme de gauche et un nationalisme de droite. Mais on a quand même le clivage droite-gauche, qui me semble très clair entre les deux.
Le programme économique de Marine Le Pen a beaucoup évolué, de la famille Le Pen, j'allais dire, puisque c'est une entreprise familiale, a beaucoup évolué en 25 ans. Et aujourd'hui, autant je pense qu'on ne peut pas contester un instant, je suis d'accord avec Sylvain sur ce point, le fait que Mélenchon soit de gauche, autant on peut franchement contester le fait que Marine Le Pen soit de droite, en tout cas dans tout ce qui est la partie économique du programme. Non, c'est très contestable. C'est une quasi-banalité.
Défense des services publics.
Mais vous avez dans ce qu'on appelle les éléments de langage aujourd'hui du Front National, énormément de choses que vous trouviez tout simplement dans le programme commun en 81. Donc, je suis pas en train de donner raison ou tort à quiconque. Je suis en train de dire que clairement, on ne peut pas dire que Mélenchon et Le Pen soient si différents sur beaucoup de points.
Enfin, la préférence nationale
jamais envisagée.
La préférence nationale suffit à la classer l'extrême droite, Philippe Manière.
Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça dans son programme.
Non,
et tout le monde ne vote pas pour Marine Le Pen à raison de cette préférence nationale.
On fera peut-être une émission sur le clivage gauche-droite, mais Brice Couturier pour revenir.
Je voudrais revenir à ce que je disais, parce que j'ai trouvé à l'époque où Trump a été élu, il y a un éditorialiste du New York Times que j'apprécie beaucoup, Friedman, qui n'a rien à voir avec l'économiste Friedman, l'ultra-libéral, comme on dit. Mais ce Friedman-là a sorti simplement un gimmick qui me paraît extrêmement significatif pour expliquer la redistribution des cartes hors du clivage droite-gauche et transcendant la l'octaviation droite-gauche. Friedman dit, en fait, vous avez aujourd'hui le peuple du mur et le peuple du web. Le peuple du mur, c'est les gens qui pensent que c'est seulement dans le cadre de l'État-nation qu'on peut organiser la solidarité, que c'est dans le cadre de l'État-nation qu'on peut monter les États sociaux et les financer. Et le peuple du web, c'est ceux qui pensent que la connexion, que les lignes Maginot aujourd'hui n'ont plus aucun sens, parce qu'elles sont de façon pénétrées de partout, et qui pensent au contraire que leur chance, leur avenir, c'est l'interconnexion mondiale, c'est la mondialisation. Donc c'est vraiment autour de la mondialisation dont finalement l'Europe, l'Union européenne, l'intégration européenne apparaît à beaucoup comme simplement le cheval de Troie que s'organise la répartition des clivages politiques aujourd'hui. Et c'est pas par hasard en effet qu'on voit apparaître, se rapprochant du deuxième tour, Emmanuel Macron, le candidat de l'ouverture, le peuple du web si vous voulez, et Marine Le Pen, le peuple du mur. La question c'est savoir jusqu'à quand le peuple du web sera plus important numériquement que le peuple du mur. Est-ce que le nombre de laissés pour compte, de régions abandonnées, de territoires désertés par les services publics vont un jour devenir la majorité dans ce pays ou pas? Car tout, c'est de ça que dépend finalement le résultat des élections.
La question ceci, c'est peut-être quelle réponse on apporte aux inquiétudes du peuple du mur, Philippe Manière?
Oui, alors moi je trouve que la dichotomie de Tom Friedman est tout à fait opérante, effectivement. Soit on a envie d'être protégé par un mur, soit on a l'espoir que le réseau, le web vous donne des opportunités et donc on est optimiste. On revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, optimiste contre pessimiste. Alors, il ne faut pas oublier quand même de mentionner quelque chose, c'est que même s'ils le font avec la meilleure bonne foi du monde, un certain nombre de gens se trompent grossièrement s'agissant d'eux-mêmes. J'ai été très frappé de voir il n'y a pas longtemps, s'agissant du Brexit, une petite émission qui avait été faite dans une partie de la Cornouaille qui vit très massivement de subventions européennes, qui est très agricole et où les revenus des agriculteurs, qui sont l'essentiel de la population, en tout cas la population active, vivent très largement de subventions européennes. Ce sont des gens qui avaient voté très massivement pour le Brexit. Je ne peux pas vous dire ce qu'il adviendra de leurs revenus dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il faudrait voir ce que... Mais le plus probable de loin est que ces gens-là vont beaucoup perdre à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, vous avez dans les deux cas des gens qui, de bonne foi, pensent que le web est formidable et que c'est comme ça qu'ils vont réussir, ou bien que le mur est nécessaire et que c'est comme ça qu'ils s'en sortiront. Mais vous pouvez avoir des gens qui, dans les deux cas, se trompent. Et c'est ça qui rend les choses compliquées, précisément parce que l'analyse qu'on doit faire du bien fondé de telle ou telle thèse est très compliquée. On voit bien que dès qu'on veut simplifier, on voit ça presque quotidiennement depuis que Trump est au pouvoir, dès qu'on pense qu'il y a une solution simple à un problème complexe qui est lancinant, on est très rapidement démenti par la réalité. Il est très difficile de trouver une solution simple à un problème complexe. Et quand il s'agit même de ses propres intérêts, on peut être complètement dans l'erreur. Ces paysans de Cornouailles sont sans doute sincères en pensant que ça ira mieux sans l'Europe. Ils seront sans doute parmi les premières victimes de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc il y a le web, il y a le mur, ce sont des tentations, ce sont des analyses faites de bonne foi. Ça peut aussi être des analyses totalement erronées, y compris du point de vue de l'intérêt de celui qui les fait.
Sylvain Bourmeau.
On pourrait prendre le même type d'exemple avec des électeurs de Donald Trump. Ça marcherait pareil. Ils se rendent compte ou ils vont se rendre compte assez vite qu'ils ont voté contre leurs intérêts économiques. Maintenant, on ne vote pas toujours pour son intérêt économique. On peut avoir d'autres motivations du vote, plus idéologiques. Je ne suis pas en désaccord avec ce constat qui est fait par... Thomas Friedman est repris là par Brice Couturier et puis Philippe Manière. Il y a quelque chose de pertinent, comment le nier dans ce constat. Ce que je conteste, c'est le fait qu'il soit raisonnable d'en faire un clivage politique. Encore une fois, c'est un clivage objectif, social, c'est un clivage idéologique, mais il y a pour moi, simplement à cause des raisons, des questions que posait Brice Couturier à l'instant. Combien de temps le peuple du web va être majoritaire? À cause de ça, tout simplement, je pense qu'il est profondément déraisonnable de transformer ce clivage objectif en un clivage politique.
Ce serait objectivement déraisonnable, c'est parfaitement raisonnable du point de vue de celui qui choisit ça comme fonds de commerce. Si vous voulez être élu à la présidence de la République, il faut choisir son camp. Et Marine Le Pen a choisi le camp du mur, ce qui lui donne une certaine probabilité d'être élu. Et Emmanuel Macron a choisi le camp du web, ce qui lui donne une certaine probabilité d'être élu. Mais et vous voyez bien d'ailleurs que quiconque dit autre chose, quiconque n'est pas mur ou web, est beaucoup moins audible.
Mais bien sûr, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que ce court-termisme électoral, pour les raisons que vous dites, c'est-à-dire des raisons de succès, hein, de l'électoralisme au fond, m'inquiète au plus haut point parce que je pense que on a la réponse, il suffit d'aller un tout petit peu plus loin et de regarder ces clivages objectifs dont parlait Brice Couturier à l'instant, de regarder le partage, de voir où se trouve la majorité, où se trouve la minorité. Il y a toute raison de penser que c'est ce rapport de force, au fond, si on le prend comme ça, se traduira dans les urnes par la victoire de ceux qui n'entendent représenter que ceux qui constituent ce peuple du mur. Donc, quand j'appelle à la raison politique, c'est à celle des leaders et des organisations politiques qui ne se posent pas comme simplement les représentants de ce peuple du web, un peu méprisant, un peu au-dessus, un peu condescendant, mais qui sont capables de faire un travail de pédagogie. Ça ne veut pas dire reprendre les idées xénophobes, racistes, de ceux qui veulent le repli identitaire. C'est pas ça l'idée. Ça veut dire simplement se soucier, notamment du point de vue social, de l'inclusion d'un certain nombre de gens qui sont laissés pour compte. Et c'est là qu'il y a un véritable travail de pédagogie politique. Donc voilà, le court-termisme actuel, évidemment, consiste à essayer d'importer en politique ces clivages sociaux à nos plus grands risques et nos plus grands périls.
Alors on file depuis tout à l'heure la métaphore du peuple du web et du peuple du mur. Peut-être rentrer un petit peu plus concrètement dans les choses, le peuple du mur, Brice Couturier, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens à l'interprétation qu'on a pu donner au nom de 2005. Encore une fois, il y avait deux revendications assez claires. Il y avait la revendication souverainiste. On ne veut pas déléguer plus à l'Europe. On ne veut pas qu'elle consolide sa construction. Et puis, il y avait la question de l'Europe sociale. C'était formulé ainsi par ceux qui faisaient campagne. Voilà. Elle est passée où cette interprétation?
Pour vous répondre, Mélanie, il y a deux façons de lire la société de manière extrêmement grossière. Il y a une lecture en termes de classe sociale qui repose sur les niveaux de revenus, sur le niveau de protection, et il y a une lecture en termes d'identité culturelle. Il est clair que les lectures en termes de classe sociale favorisent les partis de gauche. Les lectures en termes d'identité culturelle favorisent les partis de droite. C'est aussi vieux que le monde politique.
Pour vous, c'est la même chose, mais c'est deux lectures différentes ?
Non, c'est pas du tout la même chose, ça se recoupe pas forcément, mais à partir du moment où les gens, où la mondialisation provoque à la fois un écartèlement des niveaux de revenus dans beaucoup de pays, c'est pas le cas de la France d'ailleurs, mais dans la plupart des cas, la plupart des pays, ça a provoqué un écartèlement entre les insiders et les outsiders, en gros, ceux qui ont un job bien payé et qui ont des opportunités de travail dans le monde entier, et ceux qui sont rivés à leur territoire, sans capacité de bouger, et avec des emplois extrêmement insécures et fort mal payés. Il y a ce clivage-là, c'est le premier effet de la mondialisation. Mais vous avez un deuxième effet de la mondialisation, c'est les vagues massives d'immigration qui arrivent en Europe. Or, c'est ça qui ébranle véritablement les électeurs et c'est ça qui, évidemment, qui fait monter les votes populistes. Parce que les gens réagissent...
Le vote mur,
c'est le vote en termes d'identité culturelle. Mais puisque j'ai le micro, Mélanie, je voudrais en profiter pour répondre à vos premières questions, celles du début, parce qu'elles me paraissent avoir été esquivées. Et je voudrais y revenir.
Merci.
Vous avez dit, le référendum de 1905 portait sur... Elle portait sur quoi et pourquoi il y a eu le nom
2005.
L'obsession
2005,
laïque. L'obsession laïque, exactement. En 2005, on nous a demandé de nous prononcer sur quoi? Non pas sur la direction politique que prenait l'Union européenne, mais sur ses institutions. Et il me semble que les dirigeants européens, à nouveau, je viens de lire un paquet d'articles à propos de répondant au livre blanc de Juncker sur l'avenir de l'Union européenne, tous ces papiers se concentrent toujours sur les moyens, hein, les institutions européennes qu'il s'agit toujours de réformer, bien entendu. L'architecture européenne, est-ce que c'est la géométrie variable, l'Europe à plusieurs vitesses, la concentration, etc. Elles n'ont aucune idée du projet politique dont l'Europe pourrait bien être porteuse. Alors, une union, oui, toujours plus poussée. Maintenant, elle ne va plus être plus poussée pendant un petit moment, il faut être sûr. Mais pourquoi faire une union? Pour aller vers où? Et de l'identité européenne, elle s'arrête où l'Europe? C'est qui l'Europe? Elle vient d'où? Quelle est son histoire? Tous ces aspects substantiels de l'identité de l'Europe, du construction européenne, ont été évacués par les dirigeants européens. Et je pense que la défaveur dont subit aujourd'hui l'Union européenne vient du fait qu'on nous bassine avec des histoires de commission et de conseil européen et de parlement européen et qui devrait avoir le pouvoir. Ce n'est pas la question que se posent les peuples. Les peuples se posent la question: pourquoi sommes-nous ensemble? Pourquoi faire? Les États-Unis, la Russie et la Chine ont un président qui décide. Il y a une décision politique, il y a un acteur politique majeur. L'Union européenne est toujours aux abonnés absents, on ne sait pas ce qu'elle veut. On ne sait pas ce qu'elle veut en Syrie, on ne sait pas ce qu'elle veut en mer de Chine, on ne sait pas ce qu'elle veut par rapport à l'OTAN. Et je pense que c'est ça le problème de fond, et c'est pour ça que l'Union européenne a tant déçu. C'est parce qu'elle s'est concentrée de manière nombrilique sur elle-même et sur ses institutions, et qu'elle n'a jamais été capable de formuler un projet politique.
Et finalement, Brice, en 2005, c'est la dernière fois qu'on a débattu concrètement, sérieusement de l'Europe.
Mais justement, on a débattu, Mélanie, c'est pour ça que je vous répondais là-dessus, des institutions. J'étais dans la salle
la question de savoir quel projet
du Parlement
on voulait.
Européen. Non, jamais. C'était toujours l'équilibre entre les pouvoirs.
Philippe Manière.
Non, moi, je crois que 2005 était une date importante au sens où avant, il y avait ceux qui trouvaient qu'il y avait un peu trop d'Europe, mais que c'était pas bien grave. En gros, les prédécesseurs du peuple du mur. Et puis il y avait ceux qui trouvaient qu'il n'y en avait pas tout à fait assez, mais qu'on finirait sûrement par y aller. En gros, les prédécesseurs, les précurseurs du peuple du web. Et puis tout ça faisait d'excellents Français et une excellente Europe, et on n'en parlait pas.
Vous voulez dire c'était le clivage plutôt de 1992 sur Maastricht.
Oui, c'est ça. Et quand la question... Donc 92, bah, c'est passé pas glorieusement, hein, mais c'est passé. Après, les choses deviennent plus compliquées et tout d'un coup, les gens se disent « mais non, mais moi, je trouve que ça va trop loin » et l'autre dit « mais non, je trouve qu'il faut que ça aille plus loin » et tout d'un coup, on antagonise deux populations qui jusqu'alors mettaient malgré tout les bienfaits d'être ensemble dans l'Union européenne au-dessus de ce clivage qui apparaît de manière tout à fait spectaculaire en 2005. Et la difficulté, c'est que quoi qu'on pense des améliorations qu'il faille apporter à l'Europe, et Dieu sait que qui qu'on soit, on en a tous en tête, il faut vraiment savoir, et ça là-dessus, Asselineau l'autre soir, je trouve, était extrêmement probant, que c'est presque impossible de faire bouger l'Europe. D'où la tentation du peuple du mur de dire c'est trop compliqué, on n'arrivera pas à la faire bouger, parce que c'est vrai que mettre d'accord 28 États, c'est devenu très 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 compliqué, même si on ne va pas jusqu'à dire que c'est impossible, comme le disait Asselineau, c'est très compliqué. Et donc, on est condamné à être dans cette espèce de sous-optimum. Et il y a des gens qui ne le supportent plus, parce que ce sous-optimum fait écho à une situation personnelle dégradée. Qu'il soit ou non en raison de penser qu'il y a un lien entre les deux est une autre question, ils le pensent. Et donc ils disent, puisque c'est un sous-optimum et qu'on ne peut pas l'améliorer, eh bien fichez-moi ça en l'air.
Sylvain Bourmeau.
Pour revenir à la question de départ, qui est celle au fond de savoir si le non-respect du vote du traité constitutionnel a produit des effets désastreux sur le rapport à la politique. Très très certainement, mais je dirais d'une certaine façon, ce qui a été à mes yeux toujours, depuis le début, depuis cette campagne, plus grave que le non-respect, dans la mesure où il y a eu effectivement après l'élection d'un président qui était pour qu'on revienne sur ce vote, ça a été... Encore une fois, l'électoralisme court-termiste, c'est-à-dire les positions que, à l'époque, j'ai qualifiées de molettistes de Laurent Fabius, de Manuel Valls. Des positions, il n'était pas crédible un instant. Enfin, vous imaginez que Laurent Fabius ou Manuel Valls soient contre l'Europe? Pourquoi ont-ils été dire publiquement qu'ils étaient contre? Pourquoi ont-ils soutenu le non? Ça abîme considérablement la parole politique. Et c'est ça qu'on paye cher et que le Parti Socialiste, en particulier...
Laurent Fabius l'a payé lui-même. Hein. Image a été définitivement abîmée par ce choix. Oui, alors qu'il faisait un choix tactique, c'est ça qui est très, très paradoxal.
Il a perdu les primaires par la suite, il n'a pas pu être le candidat. Bon, il s'est quand même retrouvé ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel.
Oui, on l'a vu, pire déchéance. Hein, ouais.
Voilà. Mais Manuel Valls, ça ne l'a pas empêché de devenir Premier ministre par la suite. Et surtout, tout le monde a oublié qu'il avait voté pour le nom. Donc, si vous voulez, ça produit beaucoup plus de dégâts, ce genre d'attitude, à mon sens,
le nom aurait gagné même sans Fabius. Hein. Non, mais faut pas non plus surestimer le nombre de gens qui ont l'oreille rivée à leur poste de radio en se demandant ce que Fabius va recommander. Vous savez, doit pas dépasser tellement le nombre de gens
entendu,
dans sa famille.
Bien entendu, je veux dire que ça a eu des effets désastreux sur le Parti Socialiste, qui est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, à cause de ce type de position. Mais c'est une vieille histoire, c'est ce qui se passait déjà avec la SFIO sous la 4ème République. C'est pour ça que je faisais la référence à Guy Mollet, c'est-à-dire qu'on tient des propos dans l'opposition qui n'ont rien à voir avec les politiques qu'on va mener ensuite au pouvoir. Et ça produit, encore une fois, des dégâts considérables.
À droite, juste un mot, n'oublions pas que Fillon était séguiniste. Et aujourd'hui, il occupe sur... Alors, c'est très intéressant, Le Monde a fait tout un dossier sur la position des différents candidats, des 11 d'ailleurs, sur les différents thèmes européens. Et on voit bien, effectivement, c'est âgé. Les gens, entre Asselineau, qui est pour la rupture, Marine Le Pen, qui est pour une rupture négociée à partir d'un référendum, jusqu'à Macron, qui est sans doute le candidat le plus favorable à l'Union européenne, on voit s'étaler toutes les sensibilités possibles entre le pro-européen en chef et l'anti-européen maximaliste. reste. Mais je pense qu'effectivement, la question européenne restera au centre du débat entre nos différents candidats, parce qu'elle cristallise un grand nombre d'autres sujets. C'est que le sujet est extrêmement bien choisi, je pense, Mélanie. C'est que la question européenne, effectivement, derrière la question européenne, on voit bien se profiler toutes sortes d'autres problèmes.
Vous répondez pas toujours aux questions, mais vous vous rattrapez bien, Brice Couturier. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Brice Couturier, donc Sylvain Bourmeau et Philippe Manière. La réécoute de l'émission, les podcasts, les commentaires, c'est sur franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Comme d'habitude, vous pouvez aussi nous suivre sur notre fil Twitter du Grain à Moudre. Une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer et Louise Fuseau. Réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Jean-Guilain Mage, et j'ai oublié Antoine Tricot que je remercie également. Lundi, c'est Hervé Gardette qui sera de retour au micro du Grain à Moudre avec cette question: y a-t-il une cohérence idéologique du centre? Et dans quelques instants, on retrouve Ping Pong. Mathilde Serrel, Martin Guéhen, c'est à vous.
Mélanie bonsoir. Chalandon, bonsoir.
Enfin, c'est à Mélanie vous. Chalandon.
Dites-nous de quoi vous allez parler ce soir.
Une question. Je danserai si je veux. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation. Et c'est un film, trois émancipations, trois parcours, par une réalisatrice palestinienne. Son premier long métrage, Meysaloun Hamoud.
Et à ses côtés, Frédéric Nozissiel, artiste, plasticien, qui nous invite dans les rues de Baltimore et de Seine-Saint-Denis, et même à Fleur de Peau, avec ses installations à découvrir en ce moment à Paris et en Seine-Saint-Denis.
Eh bien, merci beaucoup. Très bonne émission. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres.